Interview.
2 jours.
Salut Martin.
Salut.
En distanciel, hein, comme on dit, depuis le Haut-Béarn, c'est ça?
Exactement, j'habite à Aizus, un petit village qui ressemble à Barnave, mais qui est côté Pyrénées. Et ravi d'être avec toi Baptiste et Radio Laurent, ça me fait très plaisir. J'ai l'impression d'être comme à la famille, quoi.
Et pourquoi tu dis Radio Laurent?
Ah non, pardon, et Radio Diwa, pardon. On a une petite radio locale aussi. Et donc oui, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques, à côté de Oloron-Sainte-Marie, dans un petit village qui s'appelle Aizus.
Très bien, et ben ça nous donnera l'occasion peut-être d'aller écouter, voire rencontrer cette radio aussi. Là, on est sur RDIWA, 101.7, 107.5 FM, ça tout le monde connaît, www.rdwa.fr, avec un vieil écho, mais on va régler ça. Martin, comment est-ce que tu te présenterais?
Eh bien, fils d'agriculteur de Barnave, dans le Diwa, et très concerné par le sujet de la santé, la démocratie, la joie et le bonheur. Voilà.
Tu es toi-même praticien de santé?
Avant, j'ai été pendant 10 ans ostéopathe dans les Pyrénées-Atlantiques. Et à un moment donné, avec les enfants, c'était plus compatible d'être engagé socialement avec intensité et ostéopathe. Et donc, en 2019, j'ai vendu mon cabinet d'ostéopathie pour me consacrer professionnellement à mes engagements sociétaux. Et donc, depuis, j'ai dirigé 2 campagnes, la campagne Secret Toxique sur les pesticides et puis la primaire populaire.
Ces deux campagnes dont on va parler principalement aujourd'hui, puisque tu as édité 2 bouquins, un qui est déjà disponible, Secret Toxique, et l'autre sur la primaire populaire qui va donc sortir le 20 octobre. Et donc, il sera déjà sorti à l'heure où les gens écouteront cette interview. Du coup, tu as parlé de tes engagements sociétaux. Est-ce que tu peux nous les préciser un peu? Par quoi t'es passé? Qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans, sous cette forme, j'allais dire, de politique, sans pour autant faire partie des partis?
Ouais, je pense qu'il y a en premier un contexte dans mon enfance et mon adolescence. Et puis après, il y a un déclencheur. Bah, le contexte, c'est... le Diwa qui a quand même beaucoup foisonné d'initiatives pour notamment autour de l'agriculture biologique, des circuits courts. Et donc moi j'ai grandi à Barnave et donc j'étais très influencé par ce milieu-là. Mais d'une certaine manière, j'avais jamais vraiment personnellement été engagé dans des actions jusqu'à mes 21-22 ans. Je pouvais aller à des manifestations de temps en temps, mais pas beaucoup plus. Et en fait, c'est le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, qui en 2006 a été un électrochoc. Parce que le film raconte le scénario du pire, d'une certaine manière, l'emballement climatique, l'exode possible de millions de réfugiés. Et donc, quand j'ai vraiment vu ce film, j'ai pas dormi quasiment de la nuit. Tellement j'ai été choqué en fait de la trajectoire dans laquelle nous sommes. Et je me suis dit, là vraiment, c'est indispensable que je m'implique. Et depuis 2006, en fait, j'ai jamais arrêté d'être au quotidien avec l'idée qu'on peut créer la surprise, trouver des solutions à tous les défis de l'époque. Voilà, 2006, 2007 jusqu'à 2023, ça fait 15 ans. Peut-être 15 000 heures engagées sur ces sujets au niveau local et national.
Comment ça se fait que tu y as cru à ce film?
Déjà, je pense que j'avais le terreau était là, parce que comme j'avais grandi dans un milieu proche de la nature, j'avais déjà vu les dégâts des pesticides sur les abeilles, j'avais déjà vu ma cousine Marie qui est morte d'une tumeur au cerveau à 16 ans, mon cousin Sylvain qui est mort d'une leucémie à 20 ans, donc j'étais déjà sensible. Et le film, je me suis dit, il sonne juste parce qu'en fait, il y avait de la confirmation de ce que j'avais déjà identifié dans mon enfance et mon adolescence. Et puis le film fait des allers-retours en fait entre des scientifiques et on va avoir la taille de la calotte glaciaire au Groenland. Donc il est assez pédagogique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu le prix Nobel avec le GIEC. Et donc en fait là vraiment durant cette nuit quasiment blanche, je me suis dit bah, je vais faire le maximum et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait les deux principaux leviers de transformation durable, c'était l'émerveillement et la connaissance. Et donc, comment donner de l'information qui génère de l'émerveillement et de l'information qui donne envie d'agir et de l'information qui permet de générer la compréhension des liens, qu'il n'y a pas d'un côté notre santé, de l'autre côté la santé de la planète, il n'y a pas d'un côté l'économie, de l'autre côté la démocratie. Et donc, avec des amis étudiants, on a créé une association dans l'école d'ostéopathie où j'étais pour favoriser la compréhension des liens entre bah, toutes les disciplines qui font qu'on fait société et qu'on est sur Terre. Et après, il y a eu le décès d'un jeune d'un cancer dans mon école d'ostéopathie. Et là, on a fait une enquête pour comprendre les causes de cancer, notamment chez les jeunes. Et puis après, bah, de fil en aiguille, voilà, j'ai publié 8 livres, souvent en équipe. Et puis ben, actuellement, je m'occupe d'une fondation et d'une mutuelle de santé. Mais voilà, les dernières années, j'étais très impliqué sur les pesticides au niveau national et puis essayer de créer la surprise en 2022 pour gagner l'Élysée et l'Assemblée. Voilà, on n'a pas réussi, mais on a tenté quoi.
Est-ce que ton travail en tant qu'ostéopathe, dont on sait que c'est une profession qui va travailler à la fois sur le corps, sur des choses très concrètes, mais aussi sur des choses plus sensibles, la relation qu'on peut avoir à la terre justement et au vivant, et tu parlais de ce rassemblement dans votre école, est-ce que ça te paraît normal ou est-ce qu'il y a une certaine logique? Est-ce que ça parte finalement d'un milieu proche déjà de la santé?
C'est sûr que mon métier d'ostéopathe, il m'a énormément, je pense, apporté à plein d'égards. En premier, en fait, la chance des ostéopathes, c'est qu'ils reçoivent donc des patients pendant 1 heure. Et les patients, en tout cas, c'était mon cas, témoignent rapidement d'une très grande confiance. Et donc, on va rencontrer. Finalement, toute la population au sein de mon cabinet, il y avait des SDF, des réfugiés, des patrons d'entreprise, le sous-préfet, des gens qui ont 95 ans, des nouveau-nés qui ont 2 jours de vie. Donc, en fait, il y a toute la population qui vient et de toutes les catégories socio-professionnelles et avec qui on a le temps de vraiment créer un lien fort. Et en fait, à la fin de ma vie d'ostéopathe, j'avais vraiment la sensation d'être dans une prison avec des barreaux d'or, parce que à la fois je me sentais utile, les patients étaient très reconnaissants, mais en même temps, j'avais bien compris qu'il y a un patient sur deux qui venait parce que la société était en train de se déliter. Concrètement, une grand-mère venait parce que elle avait mal au dos parce qu'elle avait attendu 48 heures dans le couloir des urgences. Un jeune homme vient parce qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, mais en fait, au bout de 2 questions, je comprends que ça fait 2 ans qu'il cherche à avoir un enfant avec sa femme et 2 ans sans contraception, ils n'ont pas d'enfant. Aujourd'hui, c'est un couple sur quatre qui n'arrive pas à avoir d'enfant après 1 an sans contraception. Et donc, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de rester dans ma bulle de confort à être utile à petite échelle, mais finalement à ne pas agir sur les causes qui font que tous ces gens souffrent et viennent me voir. Dernier exemple, une femme qui me dit ah, j'ai les cervicales complètement bloquées, j'ai mal. Et puis en l'écoutant, en fait, elle revient d'un week-end où elle a été voir sa mère qui a Alzheimer et qui lui a parce qu'en fait, Alzheimer, ça peut désinhiber la parole. Donc en fait, sa mère, elle était complètement en roue libre à raconter tout et n'importe quoi. Des propos extrêmement violents. Et en fait, moi, le lien que je fais avec bah, la pollution chimique dont les pesticides font partie, c'est que bah, beaucoup de ces polluants chimiques viennent du pétrole et sont des perturbateurs endocriniens et nerveux. Et donc, en fait, aujourd'hui, si sur les 400 000 nouveaux cas de cancer par an, cancer du sein, cancer de la prostate, c'est les plus importants, bah, c'est aussi parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui contribuent à ces cancers hormonodépendants. Et puis, malheureusement, ben, bah, ces produits chimiques sont aussi des perturbateurs nerveux. Donc, ce n'est pas un hasard si ils sont facteurs de tumeurs cérébrales, de Parkinson et de troubles cognitifs du type Alzheimer. Donc voilà, moi j'avais envie de changer les choses à la racine, en tout cas essayer. Et c'est pour ça que je suis passé d'une vie d'ostéopathe un peu pépère à une vie plus engagée au niveau social. Et la première interview que Radio Diwa avait faite, c'était pour un projet qui s'appelait Octobre des jours heureux, à Die en 2020. Et c'était avec le nouveau Conseil national de la résistance et le Covid avait balayé ce projet. Mais voilà, c'était aussi le début de mon côté dans une autre vie professionnelle qu'ostéopathe.
Tu disais une vie pépère, aujourd'hui elle est beaucoup plus mouvementée. Tu n'en vis pas de la même manière, quoi. Comment est-ce que tu as géré ça, ce passage?
Ah, c'était chaud, hein. C'était chaud parce qu'en fait, quand je dis pépère ostéopathe, c'est juste que je gagnais confortablement ma vie avec des revenus stables. Pour le banquier, il n'y avait pas de problème pour avoir un prêt pour une maison. Enfin, matériellement, c'était très confortable. Après, quand j'ai vendu mon cabinet d'ostéopathie, je pensais avec la somme que ça me ferait un peu de chômage parce que quand on est en libéral, il n'y a pas de chômage. Et en fait, la maison, il fallait la finir, de la construire avec des frais supplémentaires. Donc finalement, je me suis retrouvé sans vraiment du tout d'argent de côté. J'ai postulé, là c'était printemps 2020, c'était la Covid, donc pas facile pour trouver aussi du travail. J'avais postulé pour ramasser des pommes de terre parce que les agriculteurs manquaient de main-d'œuvre quoi à ce moment-là. Mais bon, finalement, il y a Gilles Perret, le réalisateur du film La Sociale et Les Jours Heureux, qui m'a proposé du travail pour le projet de nouveau Conseil national de la résistance, là où il y avait Pablo Servigne qui était impliqué aussi. Donc finalement, j'ai pas eu à travailler dans les champs, ça m'aurait pas dérangé. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai eu plein d'employeurs différents. Donc familialement, pour les revenus, c'est plus rock'n'roll. Mais là, actuellement, j'avais besoin de stabilité. Donc j'ai un engagement fort dans les mutuelles. Et comme c'est des structures qui existent depuis plus d'un siècle, c'est aussi une zone de stabilité où il y a des choses utiles à faire, quoi.
Allez, on rentre dans le vif du sujet après cette ample présentation, auto-présentation, Martin. Alors, je n'ai pas donné ton nom, hein, Martin Riosec-Fournier, pour ceux qui ne t'auraient pas reconnu. Tu as donc publié un certain nombre d'ouvrages et les deux derniers en date sont « Secrets toxiques, faire face ensemble au scandale des pesticides » et « La primaire populaire du projet au désastre final ». Parlons d'abord de Secrets toxiques que tu as donc co-écrit. Hein. Qu'est-ce que tu as voulu donner aux gens et à quelle personne tu t'adresses?
Merci beaucoup pour l'intérêt hein, pour ces deux livres. En fait, le premier livre sur les pesticides, le public visé, c'est toute la population qui a entre 15 ans et jusque, bien sûr, aux personnes qui sont retraités. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une famille en France aujourd'hui qui n'est pas concernée par les maladies qui sont associées à l'exposition aux pesticides. Autour de nous, on voit tous des gens qui peuvent avoir des cancers, Parkinson, Alzheimer, troubles de l'apprentissage pour les enfants, etc. Et comme on est tous concernés par ces pathologies dans notre entourage ou nous-mêmes, eh bien, le sujet des solutions est un sujet grand public. Et donc, à travers ce livre, s'il y a un message très court que je souhaite faire passer, c'est qu'on a tout pour gagner la bataille de la santé publique et changer le modèle agricole. On a tout pour gagner la bataille parce qu'on a de notre côté la science. Ça fait 60 ans que les scientifiques ne font que confirmer, comme pour le climat, les liens entre l'exposition aux pesticides et des maladies extrêmement graves. Donc, le premier livre qui fait un état de la littérature scientifique s'appelle « Printemps silencieux » de la scientifique Rachel Carson, un livre qui a été vendu à 2 millions d'exemplaires à travers le monde et qui marque le début de l'écologie en Occident d'une certaine manière, le début d'une grande prise de conscience. Et elle avait appelé son livre « Printemps silencieux » il y a 60 ans parce que elle disait « Si la trajectoire n'est pas changée, on va vers des printemps silencieux » où il n'y ait plus d'oiseaux, il n'y ait plus de papillons, il n'y ait plus de coccinelles, etc. Et depuis 60 ans, en fait, tout ce qu'elle a dit s'est confirmé. En Europe, on a perdu sur les dernières décennies 80% des insectes volants. Et puis Rachel Carson avait aussi identifié que il y avait des enfants qui mouraient de plus en plus de cancer dès les années 60 à cause des pesticides et que en fait les tumeurs se développaient dès la grossesse de la maman. C'est vraiment horrible à dire. Et en fait, aujourd'hui en France, on a des endroits comme par exemple à Sainte-Pazanne, près de Nantes, où il y a eu 25 cas de cancer d'enfants depuis 2015 et 7 décès. Et on a une augmentation du cancer chez les enfants et les adolescents depuis plusieurs décennies. Donc ce livre, en fait, pour revenir à l'idée simple, c'est qu'on a tout pour gagner parce qu'on a la science de notre côté, on a le droit à la santé et les lois par rapport aux pesticides. Parce qu'aujourd'hui, si on a des pesticides qui sont utilisés massivement, c'est parce que la loi n'est pas appliquée. Concernant les pesticides, avant d'être vendus, les bidons de pesticides devraient être évalués pour voir s'ils sont dangereux sur la santé des humains et de la biodiversité. Et s'ils sont dangereux, alors ils ne devraient pas être mis en vente. Et en fait, les tests ne sont jamais bien réalisés et l'Agence sanitaire européenne le reconnaît elle-même, elle n'applique pas la loi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Cour de justice de l'Union européenne a tapé sur les doigts de l'EFSA, c'est l'Agence de sécurité alimentaire européenne, parce que la loi n'était pas appliquée. Donc on a de notre côté la science, de notre côté le droit, de notre côté aussi la bataille culturelle. Aujourd'hui, il y a 80% des Français et même des Européens qui ont compris que les pesticides, ça tue. Et maintenant, pour arriver à ce qui est un débouché politique et qu'on sorte des pesticides, il faut que toutes les parties prenantes se donnent la main, s'organisent. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la campagne Secret Toxique, avec des alliés historiques qui font déjà ce travail-là, comme Génération Future, Nature et Progrès. Voilà.
Et c'est un angle assez particulier quand même, la manière dont vous avez écrit ce bouquin, parce que là, si tu dis tout ça, c'est que les gens ne sont pas encore au courant. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de créer qu'il y ait un mouvement, que la plupart des citoyens s'en emparent. Il faut être encore plus nombreux pour faire pression ?
Oui, non, mais les questions que tu poses sont les bonnes questions. Déjà, le livre, pour rentrer dans le détail, il est composé en 4 chapitres. Il y a un chapitre sur les pesticides, qu'est-ce qui a été fait depuis un demi-siècle. Donc, ça retrace les grandes étapes de la mobilisation. Il y a 2 chapitres qui sont dédiés à l'origine pétrolifère des pesticides, parce qu'en fait, autant les Français, de manière générale, ont compris que les pesticides, c'était pas bon, autant ils n'ont pas du tout compris qu'en fait, les pesticides, c'est du pétrole et que ça ne viendrait à l'esprit d'aucune maman et aucun papa d'arroser avec un peu de gasoil ou d'essence, la salade le soir et de dire bon appétit. Pourtant, en vérité, c'est ce qui se passe. Les pesticides, en fait, on en retrouve dans les 2/3 des aliments dits conventionnels sous forme de résidus. Donc, en fait, on se retrouve à manger du pétrole.
Ouais, après, c'est les 2 chapitres. Il y avait des tests qui avaient été faits sur les urines. Enfin, il y a des trucs qui tournent là-dessus. Les gens sont alarmés à chaque fois.
L'intégralité de la population française pisse du Roundup tous les jours à son insu parce que malheureusement, ces pesticides, il y en a sous forme de résidus, parfois même dans l'eau potable, il y en a dans l'air, il y en a dans les aliments, il y en a à la cantine. Donc même si on mange bio, on peut se retrouver à notre insu à avoir des pesticides dans notre corps. Et le dernier chapitre, et c'est là je répondrai à ta question, sur qu'est-ce qu'on vise aussi comme impact avec ce livre, le dernier chapitre parle du parallèle entre l'amiante et les pesticides. L'amiante, donc c'est 100 000 morts qu'aurait pu être évité. 100 000 morts, c'est Hiroshima. Hein, la bombe qui est tombée à Hiroshima, elle a fait 100 000 morts. Et en fait, l'amiante, c'est un Hiroshima silencieux qui gangrène tout sur son passage, qui est réparti sur tout le territoire. Mais à la différence d'Hiroshima qui en une seconde, est extrêmement spectaculaire et choquant, l'amiante s'est disséminé sur les toitures, pour la construction navale, et les maladies arrivent 10, 20, 30 ans plus tard. Donc comme il est silencieux, cet Hiroshima, et qui gangrène tout dans la durée, ça a été très compliqué pour les ouvriers victimes de l'amiante de s'organiser et de dire stop. Donc l'amiante, 1906, le premier rapport l'amiante tue, l'interdiction arrive en 97. Donc on a 90 ans qui s'écoulent pour que les victimes s'organisent et fassent comprendre aux responsables politiques et aux industriels, stop, ça suffit. Il faut 90 ans. Les pesticides, là, on est à 60 ans. On peut dire le premier rapport un peu public, etc., printemps silencieux, et on est en 2023. Et en fait, on n'a pas 30 ans devant nous pour sortir des pesticides. Il faut qu'on le fasse plus rapidement. Et donc, en fait, ce livre, il vise à faire changer d'échelle la mobilisation pour qu'on sorte de ces poisons. Et là, concrètement, la campagne Secret Toxique, elle organise en 2023 et 2024 un tour de France où on va sur 100 territoires pour projeter le film Secret Toxique qui est disponible gratuitement en ligne sur YouTube et pour rencontrer des parents d'élèves, des médecins, toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer sur ce sujet. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'action, elle génère de la motivation et de la confiance en l'avenir, mais que la connaissance d'un danger, si elle n'est pas liée à de l'action, bah, la connaissance seule, elle peut générer de la résignation. Et en fait, actuellement, moi, c'est mon diagnostic, je pense qu'il y a toute une partie des citoyens français qui sont assez déprimés par rapport à l'avenir.
Et plus que de la résignation, c'est peut-être même carrément de l'anxiété, ce qu'on appelle l'éco-anxiété.
L'éco-anxiété, ouais. Ah, ça fait des ravages, hein, l'éco-anxiété. Il y a 2/3 des Français qui se disent éco-anxieux. En gros, ils flippent, quoi. Ils flippent de l'avenir. Voilà.
Et ça, tu penses que ça résigne, justement ?
Je suis plutôt à trouver, entre guillemets, que c'est une bonne chose que les gens se sentent éco-anxieux, parce que c'est-à-dire qu'ils ont un peu compris que ça sent le roussi. Donc, qu'il y ait de l'éco-anxiété, pour moi, c'est un facteur de prise de conscience. Après, le grand sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que de cette éco-anxiété, on va la mettre de côté et se réfugier dans du divertissement de Netflix ou de ses vacances, ses loisirs ? Ou est-ce que de son éco-anxiété, on va la transformer en cohérence ou dans notre quotidien, on va essayer de trouver des solutions à ce qui nous rend éco-anxieux ? C'est qu'est-ce qu'on fait de l'éco-anxiété, en fait, le gros sujet ? Et c'est vrai que ce qui est... un peu ennuyeux actuellement, c'est qu'il y a un abandon de la classe politique, de mon point de vue, par rapport à faire changer d'échelle les solutions qu'on connaît déjà. Enfin, je vais prendre des exemples concrets, mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui impose à toute la restauration collective 20% de bio. Donc ça, c'est concret, hein, pour justement qu'il y ait moins de pesticides utilisés, qu'on soutienne l'agriculture biologique et que les enfants mangent mieux. Ben, en fait, en moyenne, la restauration collective, elle consomme à peine 6% de bio. Donc ça, c'est une loi, par exemple, qui n'est pas appliquée. Et bon, non seulement il y a de l'abandon et du cynisme du côté d'Emmanuel Macron, mais de mon point de vue, il y a aussi une forme d'abandon des partis écologistes eux-mêmes et de la gauche par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Je trouve que même les forces politiques dont on est proche... font pas suffisamment d'une certaine manière.
Évidemment, on pourra dire qu'elles ne sont pas au pouvoir et ce sera le sujet d'un petit peu après. Oui. Mais j'avais envie d'enfoncer au contraire un clou. Toi, tu dis que les politiques ne suivent pas. Ceux qui aujourd'hui nous dirigent ne font-ils pas carrément l'inverse ? Tu parlais de changer de modèle agricole. Je vais citer les gros mots. L'agro-industrie, le système capitaliste tel qu'il conçoit aujourd'hui le rapport entre la production et la consommation. C'est un gros industrie qui est capable d'OGM, de pesticides évidemment, de développer les méga-bassines, les fermes-usines. C'est une manière politique de concevoir la vie ou la non-vie. C'est ça qui est aujourd'hui à l'œuvre. Et la répression est de plus en plus énorme. C'est même très violent. Comment... ne pas être résigné ou doublement anxieux.
C'est sûr que le rapport de force, il est bien évidemment pas en notre faveur en ce moment. Pour autant, heureusement qu'il y en a qui ont été dans le maquis dans les années 40 en France pour s'organiser et puis essayer de structurer une montée en puissance de la résistance. Moi, je pense souvent à Jean Moulin. Qu'est-ce qu'il fait Jean Moulin quand il y a les premiers maquis en France qui s'organisent pour essayer de repousser les nazis ? Ben, en premier, Jean Moulin, il fait une cartographie, hein, il est préfet de formation, et puis ensuite, il va collecter des fonds en Angleterre et il va distribuer des valises de billets dans les maquis. Et le troisième élément, c'est que, en fait, c'est l'espoir. C'est-à-dire que la Royal Air Force, quand elle va livrer des armes sur le plateau du Vercors ou ailleurs, elle va aussi distribuer des fois des poèmes de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Je dis ça parce que si on s'en tient à l'instant T, oui, le rapport de force n'est pas en la faveur des circuits courts, de l'agriculture bio, etc. Le rapport de force, c'est Bayer Monsanto, BASF, Syngenta, qui dominent de plus en plus le monde des semences, des pesticides. Et en fait, ils font tout. Ils font à la fois les pesticides et ils font à la fois la chimiothérapie. Pour eux, il n'y a pas de problème, en fait. La situation peut se dégrader de l'état sanitaire, ça fait du business. Donc, il va falloir qu'on s'organise pour reprendre en main notre destin. Ça va prendre du temps. Il faut le faire de manière structurée et il faut regarder quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et dans notre camp, on a deux faiblesses, notamment. La première, c'est que, en général, les altermondialistes ont un complexe vis-à-vis de l'argent. Il y a une relation qui n'est pas libérée à l'argent. Du coup, on croit qu'avec des bouts de ficelle, on peut faire des grandes choses. Mais ça, en fait, l'histoire nous apprend qu'il faut de l'argent pour faire des choses importantes. Nelson Mandela, il a fait le tour de l'Afrique avec des valises qu'il a ramenées pleines de billets pour soutenir le Congrès national africain pour arriver au pouvoir ensuite. Jean Moulin, c'était pareil. Donc, premier levier, il faut de l'argent. Deuxième levier, il faut de l'audace. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui nous manque parce que... comme on voit bien que le rapport de force, il n'est pas en notre faveur et que ça a déjà été très dur, je pense aux agriculteurs bio, dans les années 50, 60, 70, 80, même dans le Diwa, les épiceries bio étaient de taille beaucoup plus petite. Et donc déjà exister dans la marge, c'était compliqué. Et aujourd'hui, c'est un saut culturel qui est nécessaire pour s'imaginer que, OK, on est minoritaire aujourd'hui, mais il va falloir qu'on devienne majoritaire demain. Et donc, il y a des verrous culturels, il y a des verrous financiers qui sont à transformer. Et puis après, il y a de la tactique pure, c'est-à-dire comment, quand on a un Darmanin qui envoie des CRS, on va arriver à faire en sorte que l'opinion publique soit en notre faveur et que nous-mêmes, on ne tombe pas dans le piège que nous tente Darmanin, à savoir qu'on serait juste des gens violents. Donc là, des gens comme Zdra Popovic, qui ont écrit le livre Comment faire tomber un dictateur quand on est tout seul, tout petit et sans armes, sont merveilleux de tactique. Lui, il a réussi à faire tomber pacifiquement Milosevic en Serbie. C'était pas du tout gagné d'avance. Et ils ont réussi, d'ailleurs, avec des tactiques qu'utilisait la résistance en France. Et notamment dans ces tactiques, il y a le bluff, quoi. Et au tout début, à Belgrade, ils ont distribué des flyers en pleine ville et en fait ils étaient sur le toit des immeubles, ils distribuaient des flyers et en fait les gens dans la rue se disaient waouh, mais il y a un mouvement de résistance hyper important, j'ai envie d'en être, ça donne envie, etc. Il y a eu beaucoup de bluffs en fait des fois qui ont permis que les dynamiques démarrent. Dans le Limousin, il y a un résistant qui s'appelle Serge Guingouin qui pareil avait écrit un journal de la résistance qui signait avec les combattants déterminés jusqu'à la victoire. En fait, il était tout seul. Donc, des fois, il y a du bluff qui permet de faire embarquer des fractions de la population qui savent pas trop comment se positionner. Et je terminerai là-dessus. En fait, il y a des moments d'accélération de l'histoire et la question, c'est est-ce qu'on est prêt ou pas. Quand, dans les années 40, il y a le service du travail obligatoire STO qui est demandé par les Allemands, enfin les nazis, je préfère dire, et bien à ce moment-là, il y a beaucoup d'hommes français qui se disent « Oula, non mais là, ils en demandent trop, moi, je ne vais pas aller fournir mes forces au régime nazi. » Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que là, le maquis, il s'est organisé pour pouvoir accueillir plein de jeunes français qui ne voulaient pas faire le STO. Donc là, la question, de mon point de vue, c'est au moment où les Français sont de plus en plus éco-anxieux, est-ce que tous ceux qui bossent sur des alternatives efficaces depuis 10, 20, 30 ans sont en train de se structurer pour pouvoir accueillir tous ceux qui cherchent des solutions? Et la réponse, de mon point de vue, c'est qu'il y a des choses qui existent en termes de structuration, tant du côté des coopératives que du côté des partis politiques. mais très clairement, on n'est pas à la hauteur. Là, la NUPES, par exemple, ce qu'elle a fait depuis printemps 2022, ils n'auraient pas pu faire pire pour le débouché politique aux solutions de l'époque.
D'ailleurs, ils sont en train de finir de se tirer une balle dans le pied, non?
Ben, disons qu'ils ont, grâce à tous les gens qui les ont mis au pouvoir, hein, ils sont quand même 151 députés, empoché des millions d'euros d'argent public, ça il faut le dire, mais ils n'ont pas été capables, sur les millions d'euros d'argent public obtenus grâce à l'union des forces, de reverser un seul euro pour soutenir sur les territoires les gens qui ont fait du porte-à-porte pour qu'ils soient élus. Ils n'ont rien organisé pour qu'il y ait une dynamique qui s'inscrive dans le temps, d'écoute de différentes couleurs de la gauche, comment on accueille les citoyens. Ils n'ont rien fait. Et donc aujourd'hui, comme ils sont des fois plus intéressés par leur nombril que par la cause qu'ils défendent, bah en fait, c'est pitoyable. J'espère vraiment qu'ils vont rebondir ou créer autre chose, parce qu'on mérite mieux, quoi.
Tu étais en train de nous dire qu'il fallait être organisé et que c'était pas sûr que politiquement la gauche le soit. Et tu as été dans la foulée immédiatement hyper critique. Ce qui est une des particularités des gens de gauche, c'est notre capacité à nous critiquer entre gens de gauche de manière assez virulente et souvent très fondée. Du coup, ça donne pas beaucoup d'espoir pour s'en sortir. Qu'est-ce que t'en penses?
Ok, c'est chouette
Tu
que
sais,
tu dises ça comme ça.
on se dit c'est vite quoi, quelque part. En plus, c'est du pain béni pour tous les médias qui sont contre, tous les gens qui veulent pas en entendre parler. Ouais, bah, de toute façon, la gauche, ils sont pas foutus de s'entendre.
C'est sûr que là, on est dans un contexte où ça fait longtemps. Il y a tellement de divisions que c'est très mis en avant. Là, il y a les élections européennes qui arrivent. Par exemple, Marie Toussaint pour les écolos, Manon Aubry pour les insoumis, Raphaël Glucksmann pour les socialistes et l'équipe des communistes. Comme ils ont décidé de partir chacun dans leur couloir, pour exister, ils vont être obligés de mettre très en avant ce qui les différencie des autres. Parce que s'ils avaient plein de prises de position publiques en disant on partage 80% des mêmes idées sur, on parlait tout à l'heure de l'agriculture ou sur le partage de la richesse, etc., ils manqueraient en différenciation. Donc on se retrouve avec des différences qui sont très exacerbées parce que les acteurs globalement jouent plutôt la désunion que l'union. Après, si on s'intéresse à la victoire de ces idées, hein, pour que en fait concrètement tout un chacun en ait des vies dignes possibles, bien évidemment, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir avoir un point de vue critique, construit et des perspectives de solutions. Nous, avec la primaire populaire, on a donc cherché à voir quels étaient les dénominateurs communs entre toutes les forces de gauche et tous les mouvements sociaux, et essayer que ces dénominateurs communs fassent une plateforme d'engagement, un socle commun de rupture pour donc notre société qui actuellement est engagée vers de plus en plus de précarité, de montée de l'autoritarisme et d'une terre qui serait de moins en moins habitable. Donc nous on a fait le job en fait, je pense vraiment pour montrer qu'il y avait beaucoup d'unité possible. Et aujourd'hui, la critique que moi je fais, c'est que il faut qu'on s'en donne les moyens si on veut vraiment s'unir pour gagner. Et que là, on s'en donne pas les moyens depuis le printemps 2022, avec l'arrivée des 151 députés. Et que dans l'histoire, si on regarde le dernier siècle, les jours heureux en 45, en 80, le programme commun, Mandela en 94. Enfin, à chaque fois, il y a besoin d'unir les forces de progrès social. Voilà, je peux que regretter que, vu de loin, ça semble une vaste cacophonie. J'espère vraiment que le bouquin là, sur la primaire populaire que j'ai écrit, qui s'intitule donc Primaire populaire du projet au désastre final, récit pour comprendre et réinventer. J'espère que le dernier mot est réinventé, elle sera celui qui sera bien compris.
Mais Martin, pourquoi il y a plusieurs parties? Pourquoi on est désunis? Et ça nous permettra de parler plus amplement de ce que vous avez tenté de faire avec la primaire populaire. Mais au fond, pourquoi il y a des unions et plusieurs parties de gauche? C'est la question qu'on peut se poser.
Bon, alors déjà, moi, je vais parler de là où je suis. Hein. Je suis pas du tout ni historien, ni politologue. Donc, ce sera une réponse
De comptoir.
Pas au pied de biche, parce que j'ai quand même passé 2000 heures sur ces sujets ces deux dernières années. Mais en premier, je pense sincèrement qu'il y a plusieurs partis politiques parce qu'il y a plusieurs degrés de volonté de rupture par rapport au capitalisme. Il y en a qui pensent que le capitalisme peut être aménagé, donc ils vont être plutôt socialistes, et il y en a qui pensent que le capitalisme doit être complètement dépassé. Et historiquement, le communisme portait le dépassement du capitalisme dans une économie planifiée, avec beaucoup de services publics, beaucoup de collectivisation. Les écolos sont eux-mêmes très... comment dire, il y a à chaque fois plein de nuances, en fait, entre Yannick Jadot qui va des fois parler ouvertement au MEDEF et puis des Delphine Bateau qui sont pour la décroissance. Il y a plein de nuances. Donc, en fait, les partis politiques, à mon avis, sont là pour incarner différents types de nuances. Maintenant, s'ils se parlent pas entre eux, comme ils sont minoritaires, hein, aujourd'hui, on peut dire que la société française... elle est structurée en quatre grands groupes au niveau politique. Il y a le groupe de ceux qui sont plutôt à l'extrême droite, donc c'est la peur, c'est
la haine.
Il y a le groupe qui s'en sort très bien économiquement, qui est donc le groupe qui a plutôt les rênes de l'économie, c'est donc autour de Macron, les libéraux. Il y a le groupe de ceux qui sont pour la justice sociale et l'écologie. Troisième groupe, et puis quatrième groupe, il y a tous ceux qui sont dégoûtés de la politique, qui croient plus, voilà. Et tout ça, ça fait un 100%. Donc nous, aujourd'hui, ceux qui sont pour la justice sociale et l'écologie motivée, etc., ça représente un quart de la population française. Et si ce quart-là, on le divise par 7, parce qu'il y a 6-7 nuances, bon, bah à la fin, on fait que perdre, quoi.
Et c'est là que vous avez eu cette idée de primaire populaire. Alors, je vais te laisser, si tu veux, présenter un peu comme tu as envie l'idée de fond, vers quoi vous vouliez aller. Et j'aurais peut-être deux, trois questions critiques, hein, comme d'habitude.
Bien sûr. L'idée, elle est venue de Mathilde Himmer, qui est une jeune femme qui vit dans la Drôme, qui a été très engagée au moment de la COP21 pour les accords de Paris en 2015, qui s'est beaucoup intéressée au mouvement des Gilets jaunes, qui a passé beaucoup de temps sur les ronds-points à écouter les Gilets jaunes, qui a vraiment essayé de faire le lien entre les problèmes de fin de mois et fin du monde, et qui a été la cheville ouvrière et architecte de la Convention citoyenne pour le climat, qui, même si Macron n'en a rien fait, a eu quand même de grands mérites, cette Convention citoyenne, par la qualité des propositions qu'elle a produites et par le caractère inédit de tirage au sort et d'avoir une représentation de c'est quoi la France aujourd'hui, donc avec à la fois des gens qui étaient issus de la campagne, de la ville, des ouvriers, des cadres, enfin, donc elle avait fait tout ça. Je suis pas dans son esprit, mais peut-être qu'un jour vous pourrez l'interviewer d'ailleurs. Je crois que quand la Convention citoyenne pour le climat, Macron n'a pas du tout fait voter à l'Assemblée nationale toutes les propositions, j'imagine qu'elle s'est un peu sentie déçue. Elle voyait en 2022 arriver l'échéance avec 5-6 candidats qu'elle éparpillait la gauche, et elle s'est dit comment on peut arriver à créer la surprise. Et donc, la stratégie, c'est vraiment elle, et puis bien sûr un groupe autour d'elle qui l'ont pensé, avec deux grandes idées. La première, c'est sortir du personnage sauveur et essayer de constituer une équipe pour gagner l'Élysée et l'Assemblée. Et donc ça s'est traduit concrètement par un vote au jugement majoritaire dans la primaire populaire, de manière à ce que sur... 5-6 candidats, il n'y a pas un bulletin, mais pour chaque candidat, on met une mention favorable, peu favorable, etc., pour faire émerger une équipe. Le deuxième point, c'était que cette équipe, elle doit être au service d'idées. Et donc, le préalable à la primaire populaire, c'était la constitution d'un socle d'idées altruistes, de rupture. Et donc ça nous a occupés au printemps 2021. Et Mathilde, ensuite, quand je l'ai rencontrée, elle cherchait quelqu'un qui ait de l'expérience par rapport à ce type d'initiative de faire converger des forces. Et comme j'avais été animateur en 2016-2017 d'une initiative similaire, eh bien, c'est la raison pour laquelle Mathilde donc Immer, mais il y avait d'autres, bien sûr, personnes autour d'elle, notamment Samuel Gibowski, m'ont recruté comme directeur pour rendre opérationnel en fait toutes ces idées. Donc moi je suis arrivé aux manettes et pour embaucher la première équipe de salariés en février 2021.
Alors, première question un peu critique. Comment l'idée a pu même émerger dans d'esprits aussi éclairés que vous alliez pouvoir forcer les grands éléphants de ces différents partis à faire équipe ensemble, voire même à considérer le fait d'être élus ou mis en primaire les uns face aux autres? Parce que des primaires d'écolo, on en a, des primaires de socialistes, il y en a, mais des primaires interpartis, ça, c'était jamais vu.
Bah alors, la naïveté était absolument, c'est ça que j'entends dans ta question, c'est comment vous avez pu être aussi naïf et comment vous avez pu être aussi bête ou bref. Mais je le prends bien. Il faut pas sous-estimer la crise que vivent les partis politiques eux-mêmes. C'est-à-dire que même si Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Julien Bayou, ils peuvent être fiers quand on les voit à la télé, etc. En vérité, les partis politiques sont dans une situation de crise très importante de légitimité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quasiment plus personne qui est membre d'un parti politique. Concrètement, après, par exemple, un demi-siècle d'écologie politique, hein, parce que René Dumont, candidat en 74 avec son verre d'eau, là on est en 2023, donc bientôt ça fait 50 ans, bah, les écolos, c'est de l'ordre de 10 000 adhérents à jour de leur cotisation, ça représente 0,01% de la population française. Les socialistes, ils sont à jour de leur cotisation de l'ordre de 30 000, c'est ce qui correspond peu ou prou au nombre d'élus qu'ils ont en France, donc en gros c'est un syndicat d'élus. La France insoumise, ils s'intéressent pas à la démocratie réellement, donc en fait ils sont 3 à jour de leur cotisation. Et je dis ça parce qu'en fait, non pas qu'on pensait que ça allait être un claquement de doigts qu'ils accepteraient notre projet de primaire populaire, mais en fait ils sont pas si forts que on peut l'imaginer quand on regarde de loin. Et ce qui témoigne bien qu'ils cherchaient des alliés, c'est qu'en fait personne n'a obligé les partis politiques en mars-avril 2021, à pendant 6 semaines, toutes les semaines, travailler à un socle commun d'idées qu'ils avaient pour partage.
Ça, c'est vrai que
Ça,
c'est
ils
le truc
l'ont.
qu'on apprend un peu dans ton livre,
Et
c'est
ouais,
que en
personne
fait,
ne sait ça.
ben oui, personne ne sait.
Personne ne sait parce qu'en fait, les partis politiques sont pleins d'ambivalence. Bon, qui sur Terre n'a pas d'ambivalence? Des fois, on aime la planète et en même temps, on va prendre l'avion ou notre bagnole pour faire un truc qu'on pourrait faire à pied ou en train. Donc, les partis politiques ont de l'ambivalence. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de partis politiques, c'est presque l'EHPAD, quoi. C'est que des retraités. Donc, ils ont un enjeu existentiel à renouveler les figures, les visages. Donc, en fait, nous, ils ont été intéressés par l'initiative, notamment sur le plan idéologique. Donc, ils ont construit avec nous le socle commun. Après, ça les a mis en difficulté parce que nous, on s'est appuyé sur ce travail commun pour dire, bon, bah, maintenant que vous êtes d'accord sur les idées, bah, construisons une équipe. Et là, en fait, le problème, c'est que on s'est retrouvé avec, au mois de juin 2021, les élections régionales et départementales. Et là, en fait, les partis politiques ont décidé, chacun de partir dans leur coin. Et comme ils sont partis chacun dans leur coin, ils ne pouvaient pas dire, oui, on a participé à un programme commun, on est d'accord à 90%.
Mais
Donc, en fait, ils
là,
ont.
ils partent dans leur coin parce que le système, j'allais dire, financier de ces partis a besoin d'être présent dans un maximum d'élections, le plus possible pour récupérer de l'argent qui les rend obligés de se
Alors,
détester.
c'est vrai en partie ce que tu dis, par exemple, aux élections législative, à chaque fois que ton parti a une voix, il va avoir 1 euro par voix. Je ne sais plus le montant exact, mais en gros, à chaque voix, tu as un peu d'argent. Donc il y a des partis politiques, de toute manière, ils vont mettre des candidats partout sur toutes les circonscriptions parce que ça leur apporte de l'argent et que ça fait vivre leur boutique. Après, les élections au niveau des départements et des régions, en fait, il y a des régions et des départements où il y a des bonnes relations entre les écolos et les communistes. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de disparités suivant les régions, ce qui rend compliqué au niveau national un grand accord pour se mettre à l'unisson de la même manière partout. Et après, de mon point de vue, ben, c'est malheureux à dire, mais je pense qu'en fait, il y en a qui n'ont pas envie de gagner, quoi. Qui se confortent dans un rôle d'opposition, qu'ils pourront jamais dire publiquement. Mais là, moi, je l'assume, hein, quand Yannick Jadot, il dit au mois de février 2022 qu'il va être président de la République, alors qu'il n'arrive même pas à réunir quelques centaines de personnes dans ses meetings, et pareil pour Christiane Taubira, c'est du foutage de gueule. En fait,
Hidalgo, ouais, il y en a eu plein comme ça.
ils s'intéressent davantage à voir leur visage sur des médias et à leur parti s'ils en ont un, qu'à faire gagner l'écologie ou la justice quand ils maintiennent des candidatures comme ça de témoignages. Pourquoi ils se sont pas unis départemental et régional? Moi, je peux parler de l'Île-de-France que je connais bien. L'Île-de-France, en fait, les trois têtes de liste, Julien Bayou pour les écolos, Clémentine Autain pour les communistes et Audrey Pulvar pour les socialistes. C'est trois personnes qui, un an avant, réfléchissaient à l'idée de coopération, etc. En fait, sur des élections qui sont à la proportionnelle, parfois le premier tour sert à mesurer un peu la taille des muscles des uns et des autres. Et c'est celui qui arrivera en tête au premier tour, à la proportionnelle, qui dit, bon, bah maintenant on fait équipe et vous mettez derrière moi. Ça a des avantages et des inconvénients parce qu'en fait, l'inconvénient majeur, c'est que pendant tout le temps de la campagne, tu te retrouves à, entre guillemets, des fois à taper sur la tête de ton allié parce que tu as besoin de te différencier, quoi. Et un autre désavantage, c'est que les partis politiques étant très faibles en force militante, bah en fait, c'est pas entre 2 tours, en 10 jours, que tu te retrouves à créer de l'amitié entre des militants insoumis, socialistes, écolos. Tu peux le faire si tu t'y prends 6-9 mois avant, créer de la sympathie et une dynamique collégiale, mais tu peux pas le faire en une semaine entre 2 tours. Et ça, les états-majors le comprennent globalement pas. Et le troisième truc qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, la très grande majorité des électeurs de gauche sont dans aucun parti, pourraient rejoindre une dynamique de campagne s'ils y croient, mais s'ils voient tout le monde divisé, ça leur donne pas envie. Et en fait, c'est pour ça que la primaire populaire, elle a réussi. Si on a réussi à mobiliser un demi-million de Français, c'est parce qu'en fait, on était un débouché politique à 90% des électeurs de gauche. Les électeurs de gauche, à l'été 2021, 6 mois avant la présidentielle, les sondages, c'est 90% qui veulent une candidature unique. Donc en fait, les partis politiques aujourd'hui, ils sont faibles dans leur légitimité, ils ont peu d'adhérents, et des fois, ils sont même à contre-courant des aspirations de leurs électeurs.
Et lorsque vous vous lancez dans la primaire populaire, est-ce que vous aviez imaginé que certains ne voudraient pas jouer le jeu et que finalement, à la fin, il soit désigné malgré tout quelqu'un dont on n'entendait plus parler, dont la légitimité même sur le plan politique à gauche est questionnable et qui finalement était le moins pire au regard de tout ce qu'on a pu nous faire voir, entendre et croire sur les différents candidats qui, eux, occupent une place médiatique qui leur est pas favorable.
Ouais. Bah, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que, et ça, les médias en ont très très peu parlé, et même la primaire populaire elle-même en a très peu parlé, c'est que, on avait une ceinture de sécurité pour pas que, à l'issue de la primaire populaire, la personne désignée, avec le plus grand plébiscite, parte en sucette. Et en fait, ce document s'appelle le contrat de rassemblement, et celui qui était désigné en tête de la primaire populaire devait signer ce contrat de rassemblement, ce qu'a fait Christiane Taubira. Et ce contrat de rassemblement, en fait, avec des droits et des devoirs d'une certaine manière, en gros, le vainqueur va recevoir l'aide de la primaire populaire pour faire campagne à la condition qu'il y ait la création d'une équipe. Et en fait, le drame qui s'est passé avec la primaire populaire, c'est que Christiane Taubira, de mon point de vue, elle a perdu les pédales. Elle a cru qu'elle allait être présidente de la République alors qu'elle avait aucune préparation pour, et qu'elle n'avait pas de dynamique non plus dans les sondages. Et elle voulait être soit présidente de la République, soit rien. Elle n'était pas prête à aller voir Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot pour dire « bon, bah, on fait équipe, on se répartit des postes, etc. » Et en fait, la primaire populaire, au lieu d'avoir un débat démocratique interne sur le contrat de rassemblement est-il respecté, oui ou non, de mon point de vue, il y a eu des abus de pouvoir, un hold-up démocratique, et il y a quelques salariés et directeurs qui ont décidé de soutenir Taubira malgré le fait qu'elle ne jouait pas le jeu de faire équipe.
Et donc, c'est à ce moment-là que vous, tout d'un coup, la primaire populaire devient un mouvement de pression sur les partis politiques de gauche.
Non, c'est pas tant à ce moment-là. Alors oui, bien sûr.
Mais en même temps, sortir Christiane Taubira de nulle part, c'était étrange aussi même de se dire, tiens, pourquoi c'est cette candidate-là qui sort et aura-t-elle une quelconque légitimité même à aller voir un Mélenchon gonflé à bloc?
Elle aurait pu, Taubira, s'occuper de la 6e République, elle aurait pu s'occuper des affaires étrangères, enfin, il y avait plein de postes hyper importants, et de toute manière, Mélenchon, il l'a toujours dit, Emmanuel Bompard, s'il gagnait le premier tour, ils avaient besoin de faire équipe avec leur allié pour gagner le second tour. En fait, la question se posait pas tant qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'il fasse équipe, c'est plutôt dans cette séquence-là, Taubira, le problème, c'est que elle était pas du tout prête à quelques compromis que ce soit sur la construction d'une équipe. Et nous, la pression avec les partis politiques, en fait, elle a été là tout le temps. On n'a pas commencé à leur mettre la pression en janvier 2022. On leur a mis la pression dès le mois de mai-juin 2021. Et puis ensuite, c'est monté crescendo à l'automne et à l'hiver. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était gagner. Considérant que le quart des Français qui sont de gauche et écolo, s'il est divisé par 4, 5, 6, 7, ce quart, on passait pas le premier tour. Donc nous, notre leitmotiv, c'est l'union fait la force quand la base est claire. Et par rapport à ça, c'est vrai que la fin a été un désastre, parce que les gens, pendant un an, on leur a vendu l'union fait la force, et au final, Taubira, une candidate de plus qui est soutenue. Le drame a même été jusqu'à appeler les 500 000 votants pour que individuellement ils aillent demander à leur maire de soutenir Taubira qui n'arrivait pas à trouver ses 500 signatures. Donc on a vraiment été très très loin dans la trahison d'une certaine manière de la promesse de la primaire populaire. Et puis après, le clou a été enfoncé parce qu'on avait aussi promis de rénover les pratiques démocratiques, notamment avec le jugement majoritaire. Et début mars, quand Taubira a fini de se cracher, début mars, donc il y en a quelques-uns autour d'une table qui ont dit « bon, au nom des 500 000 votants, maintenant on va soutenir Mélenchon parce que c'est le mieux placé ». Et non pas qu'il fallait pas le faire du tout, mais c'était pas possible de cette manière-là. Il fallait que démocratiquement, ils associent les gens légitimes au sein de la primaire populaire. À minima, les responsables de groupes locaux, à minima, les associations fondatrices. Là, ils l'ont fait vraiment quelques-uns autour d'une table. Et pour beaucoup de citoyens qui avaient cru dans la primaire populaire, les 40 000 qui avaient donné de l'argent, pour beaucoup, ça a été une trahison de plus. Et donc, il y en a beaucoup qui n'ont rien compris, en fait, à la fin de la primaire populaire.
Pourquoi cette fin en queue de poisson?
Elle a plusieurs origines. Et il y a des anciens salariés et bénévoles qui font aussi un bilan collectif en ce moment et qui sera rendu public. Mais mon analyse personnelle, c'est qu'en fait, on se retrouve avec 30 équivalents temps plein qui font la primaire populaire à partir de... Au début, on est 5 salariés, mais après, ça monte en puissance. Et à partir de l'automne, l'hiver, on est 30 équivalents temps plein, certains salariés, d'autres stagiaires, etc. Et en fait, ces 30 équivalents temps plein, grosso modo, ils ont tous entre 20 et 30 ans. Et en fait, ils bossent 40, 50, 70, 80 heures par semaine. Au début, ils devaient s'arrêter en octobre. La primaire devait avoir lieu en octobre, puis en novembre, puis en décembre, puis en janvier. Et en fait, les organismes, donc là, ça me fait penser à mon job d'ostéopathe, les organismes sont complètement épuisés, physiquement et psychiquement, ils ne fatiguent extrêmement. Premier point, la fatigue extrême, qui fait que du coup, il y a moins de discernement dans qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Deuxième point, la stratégie, ça implique aussi d'écouter des gens qui ont de l'expérience. Nous, on avait la chance d'avoir quelqu'un comme Claude Alfandéry, qui a été chef de la résistance dans la Drôme et qui a libéré la ville de Die, notamment. Lui, il a 100 ans, toute sa tête, et il a dit « Si c'est trop compliqué et la merde pour l'Élysée, préservez votre communauté, occupez-vous des législatives et de vous inscrire dans le temps long. » Mais en fait, les associations fondatrices, les gens comme Claude Alfandéry, n'étaient pas dans une énergie à s'imposer par rapport aux jeunes. Et quand les jeunes ont commencé à dérailler, de mon point de vue, c'est-à-dire à soutenir Taubira sans condition, eh bien, les anciens, au lieu de révoquer le bureau, parce qu'ils pouvaient destituer le bureau, ils sont partis sur la pointe des pieds beaucoup. Ils ont démissionné. Parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup d'admiration pour l'année qui s'était écoulée devant le dévouement de tous ces jeunes qui avaient mis leur vie entre parenthèses pour gagner l'Élysée et l'Assemblée. Voilà, donc si je récapitule, il y a un, l'épuisement des jeunes, deux, les contre-pouvoirs dans la primaire populaire qui ne fonctionnent pas, et trois, il faut voir ce que la primaire populaire, on s'est pris sur la tête. C'est-à-dire que Yannick Jadot, il nous comparait au Temple du Soleil, où tout le monde allait se suicider, Jean-Luc Mélenchon, il nous prenait pour des gros tocards, enfin, il y avait vraiment de l'adversité relationnelle très forte au niveau politique, et je peux te dire, allez, quatrième élément, c'est qu'on a eu... quelque chose de terrible économiquement. On a fait un vote avec un demi-million de Français, mais la plateforme numérique nous a dit au dernier moment, il faut que vous mettiez plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table, sinon le vote n'aura pas lieu. Donc nous, on avait un pistolet sur la tempe au mois de janvier 2022 pour trouver en quelques semaines des centaines de milliers d'euros. Et ça, ça nous a aussi mis un stress, mais énorme, quoi. Et tout ça mis bout à bout, ben en fait, la démocratie interne n'a pas fonctionné en janvier et on s'est retrouvé à faire l'inverse de pourquoi on avait fait tout ça pendant un an.
Et c'était donc le désastre final. non, mais c'est assez rude, en fait, de lire ce récit que tu fais. Et pour autant, tu l'ouvres avec l'idée de faire mieux, tiens, comme disait l'autre. Ouais. Est-ce que ça peut encore passer par ce type de fonctionnement-là? Ou est-ce que, pour toi, il faut réinventer quelque chose?
Bah, le truc concret, en fait, c'est que 500 000 personnes en base mail, donc c'est la primaire populaire, il faut bien que dire et redire que c'est plus que toutes les bases mails de tous les partis politiques de gauche confondus. C'est pour montrer l'importance que cette communauté avait. Elle avait vraiment réussi à cristalliser les aspirations de 90% des électeurs de gauche. On n'a pas réussi à maintenir vivante cette communauté à cause des trahisons, etc. Mais l'espoir qui a été incarné dans ceux qui ont fait la primaire populaire, je pense qu'il peut être réactivé, mais avec plus de sérieux. Là, honnêtement, même moi, en tant que directeur général, j'assume de dire que c'était un peu fou de croire qu'on allait mobiliser 1 à 2 millions de Français en moins de 10 mois à partir de rien comme structure. C'était un sprint incroyable. Et donc là, pour ceux qui veulent faire ça en 2027 ou en 2032, bah, il faut qu'ils s'y mettent maintenant. Et ce qui nous a beaucoup manqué, c'était des liens de qualité avec les partis politiques. Parce que comme les partis politiques voulaient jouer des partitions où ils jouaient tout seuls, bah en fait, on s'est retrouvé avec, comme tu le disais au début, des partis politiques qui n'avaient aucune envie de faire la primaire populaire. Et donc, ça a été la grande faiblesse du projet, c'est que les partis politiques ne soient pas partie prenante. Mais si on regarde l'histoire à nouveau, en 36, quand il y a le Front populaire, c'est pas les états-majors, hein. C'est pas les Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon en 36 qui font que le Front populaire a lieu. Le Front populaire, il a lieu parce qu'en fait, à la base, sur les territoires, dans les sections des partis politiques, les gens disent l'union, l'union, l'union. Et à un moment donné, ça secoue le cocotier des appareils politiques et ils se tendent la main. Mais ça s'est pas fait par le haut, ça s'est fait par le bas. Donc moi, en conclusion, le mot d'espoir, c'est pour tous ceux qui ont envie... que voilà, l'écologie, la justice sociale gouvernent notre pays et l'Europe, et qu'il y ait ça davantage présent sur Terre, bah, c'est de commencer à petite échelle et d'être très bien structuré. Voilà. Vraiment, la structuration, la relation à l'argent, la distribution du pouvoir et la capacité à générer du désir. Et je terminerai peut-être là-dessus, c'est que la primaire populaire, elle a été un formidable générateur de désir. il y a plein de gens qui se sont dit waouh, mais c'est génial, ils ont la patate, ils y vont, ils chantent, ils dansent dans l'espace public. Et ça, sorte d'émerveillement pour la politique, c'est peut-être le plus grand héritage de la primaire populaire.
Alors Martin, on termine comme ça?
Pourquoi pas, mais merci en tout cas pour l'intérêt.
C'était ton analyse et qu'il faut lire parce qu'elle est beaucoup plus détaillée sur la primaire populaire du projet au désastre final. C'est chez les éditions Adespot, disponible un peu partout maintenant à partir du 20 septembre, non?
Tout à fait, 20 octobre.
20 octobre, pardon. Et puis, on parlait avant de Secret Toxique, ton précédent ouvrage, avec Andy, j'ai pas noté son nom de famille.
Battentier.
Voilà. Faire face ensemble au scandale des pesticides, et ça, c'est chez Jouvence Société. C'est dur à dire vite, ça, c'est chez Jouvence Société. Martin, donc, bah, encore une fois, merci. Bonne suite. Tu prévois quoi, toi, là, du coup?
Concrètement, les municipales de 2026 et les comités de communes, je pense que c'est un bon échelon pour voilà, avoir des bases solides sur les territoires. Et puis les temps vont être, je pense, de plus en plus durs. Donc, je m'intéresse à créer des solidarités fortes avec tous les alliés pour préparer l'offensive, quoi. Parce qu'il va falloir qu'on aille à l'offensive.
Un poste d'élu, quoi.
Non, à titre personnel, on verra bien. Mais disons que j'aimerais bien que les citoyens dans le territoire où j'habite qui ont envie que leur enfant il mange bien le midi, qui ont envie de respirer un bon air, ils s'organisent pour gagner les mairies localement et la communauté de communes. Après, petit personnel, je trouve très intéressant le système d'élection sans candidat où c'est l'intelligence du groupe qui est donc mis en œuvre pour que les personnes soient mises au bon endroit, quoi. Voilà.
À faire connaître, faut que tu écrives un livre alors.
Non, mais là-dessus, il y a déjà plein de trucs.
Allez, salut.
Merci beaucoup. Ciao.
L'interview du jour.